Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison, François Sorel.
Christian Pessé.
Un petit vent, joli vent, court dans les rues et les champs, et siffle gaiement, siffle le réveil.
Alors là, c'est un petit vent, mais je ne suis pas persuadé que ce soit celui dont vous voulez nous parler, mon cher Christian.
Non, on va plutôt parler du grand vent, des grands vents.
Enfin, Michel Fugain, c'est bien sympathique.
Oui,
hein.
Mais je ne connaissais pas du tout cette chanson de Michel
Fugain.
Non,
mais ça, c'est la petite particularité balade. De Paul, de nous retrouver des chansons que même les interprètes ne connaissent pas.
C'est ça qui est fort. Oubliés, quoi.
C'est très fort. Christian, on va évoquer donc les tempêtes, les inondations, les vagues, les submersions. Est-ce qu'on est bien assuré pour tout ça?
Voilà, est-ce qu'on est bien assuré? Il y a même, parce qu'on parle, on parle de pluie, il y a aussi des pluies diluviennes ces derniers temps. Mais il y a des glissements de terrain dans les régions de montagne.
On voit encore des reportages à la télévision de maisons qui sont inondées.
Oui, et puis de maisons qui s'écroulent même, qui sont emportées. Donc,
vos témoignages là-dessus, 32-16, voilà. Dès maintenant, on vous attend.
Nous avons avec nous Stéphanie Durafour, bonjour.
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 Vous êtes
bonjour.
Porte-parole d'Assureland, donc vous n'êtes pas directement un assureur, vous êtes un comparateur?
Exactement, Assureland.com c'est un comparateur d'assurance en ligne, donc ce qu'on propose c'est d'aller rechercher pour les internautes les meilleures offres d'assurance, celles qui vont correspondre à leur profil, au niveau de garantie qu'ils souhaitent et au meilleur prix. Donc pour ceci c'est très simple, ils se rendent sur notre site, ils vont choisir le produit qui les intéresse et on va aller chercher pour eux.
D'accord, et j'ai vu qu'il y avait du conseil aussi sur votre site, il y a aussi du contenu, c'est pas seulement du comparatif.
Exactement.
Alors la première question qui se pose et que je vais vous poser, c'est comment on peut être sûr d'être bien assuré? On parle souvent des petites lignes des contrats d'assurance. C'est quoi la bonne couverture par-delà la notion de multirisque? C'est-à-dire, comment être sûr d'être assuré correctement contre la tempête, contre les inondations, et ne pas seulement attendre ou bénéficier, entre guillemets, de l'état de catastrophe naturelle?
Alors, pour être bien indemnisé quand on est face à un événement climatique extrême tel qu'une tempête, une inondation, la première chose à savoir, c'est qu'il faut avoir souscrit un contrat d'assurance.
Ça va de soi. C'est pas obligatoire.
C'est mieux.
L'assurance multirisque habitation, sauf pour le particulier qui loue.
Exactement. Voilà. C'est obligatoire pour le locataire, c'est obligatoire pour le propriétaire en copropriété.
D'accord. Mais s'il a sa maison, si on a une maison individuelle, on l'habite pour soi-même, si j'ose dire, il n'y a pas d'absolue obligation.
Il n'y a pas d'absolue obligation. La seule chose, c'est que vous risquez de ne pas pouvoir prétendre à une indemnisation.
Même en cas de catastrophe naturelle?
Même en cas de catastrophe naturelle.
Ah oui, ça c'est important.
C'est ça qui est important à rappeler, c'est que quand l'état de catastrophe naturelle est déclaré, si vous n'êtes pas couvert par une assurance, vous ne pourrez prétendre à aucune indemnisation.
Alors, pour une assurance complète, c'est-à-dire du tout risque, qu'est-ce qu'il faut comme clause?
Alors, dans les assurances habitation multirisque, on va retrouver la garantie tempête. C'est une obligation.
D'accord.
Et
ce qui n'était pas le cas autrefois. Hein.
Ce qui n'était pas le cas autrefois.
Ah, c'est nouveau, ça.
Il y a plusieurs dizaines d'années, ce n'était pas le cas. Hein.
Donc, cette garantie tempête, elle va s'appliquer quand on va avoir des vents qui vont au-delà de 100 km/h, qui vont causer des dommages. On va également avoir une garantie inondation et une garantie catastrophe naturelle qui va s'appliquer quand l'état de catastrophe naturelle va être déclaré par l'État. C'est vraiment ça qu'il faut avoir sous les yeux. Quand on souscrit son contrat, il faut être vigilant, effectivement, comme vous le rappeliez, aux petites lignes. Donc ça va être le niveau de garantie qu'on a souscrit, notamment le capital mobilier, puisque l'assureur ne va pas pouvoir indemniser au-delà du capital mobilier qu'on a choisi. Si on a souscrit un capital mobilier de 3 000 €, on ne pourra pas être indemnisé au-delà.
Même en cas de catastrophe naturelle, c'est pareil.
Même en cas de catastrophe naturelle.
D'accord.
L'état de catastrophe naturelle, il va permettre 3 choses. Il va permettre, effectivement, d'avoir un délai qui est un petit peu plus long pour déclarer son sinistre. 10 jours ouvrés au lieu de 5 jours.
Ah oui, vous parlez.
Voilà. Bon. Il va permettre d'avoir une franchise fixe de 380 €.
D'accord, oui.
Potentiellement peut être une meilleure indemnisation pour les particuliers. Et il va Voilà, c'est vraiment une meilleure indemnisation pour les particuliers.
D'accord. Alors, si on a des dégâts, par exemple, j'ai ma toiture qui s'envole.
Déjà, c'est embêtant.
Non, mais une partie, il peut y avoir une partie importante.
Bien sûr.
Qu'est-ce que je vais devoir faire? Vous m'avez dit la déclaration en 5 jours.
Exactement. On a 5 jours ouvrés pour déclarer le sinistre à l'assureur. La première chose à faire, ça va être effectivement de constater les dégâts, idéalement de prendre une photo, de prendre des photos aujourd'hui avec les smartphones, c'est assez facile de prendre des photos, voilà, de ce qu'on constate, de déclarer à son assureur de lui dresser l'état des lieux et de joindre à cet état des lieux la liste de tout ce qui a été endommagé pendant le sinistre.
D'accord. Mais alors on dit souvent, faut rien faire, rien toucher. Mais il faut quand même faire en sorte que ça ne s'aggrave pas.
C'est une obligation pour l'assuré.
D'accord.
L'assuré a l'obligation de protéger ses biens pour qu'il ne puisse pas être accusé par l'assureur d'avoir créé un endommagement. Donc typiquement, dans le cas d'une inondation, on va ouvrir les portes pour que l'eau s'écoule, on va essayer de vider, on va...
Oui, c'est-à-dire qu'il faut faire preuve de bon sens pour minimiser en fait les dégâts, c'est ça.
Exactement. Par contre, il ne faut pas enclencher des réparations tant que l'expert n'est pas passé.
D'accord. Mais Christian, juste une question. Est-ce que c'est pertinent de faire venir un spécialiste, enfin je sais pas moi, un artisan qui peut constater lui-même les dégâts pour après les déclarer à l'assurance?
Non, ce qu'il faudrait...
Parce qu'on n'a pas forcément, nous, le bon vocabulaire, si on n'est pas expert.
Voilà, si on a une inquiétude, on peut faire un constat d'huissier. Hein, c'est possible, pour voir en quel état c'est. On peut faire intervenir un expert, mais pas immédiatement. Le mieux, c'est déjà, comme Stéphanie vient de le dire, c'est empêcher qu'il y ait une dégradation. S'il y a une fuite d'eau, il faut neutraliser la fuite d'eau. Il faut faire venir tout de suite en urgence, on peut dire ça. Hein.
Exactement. Sinon, effectivement, l'assureur pourrait considérer que l'assuré n'a pas à endommager le bien, voilà, et risque d'avoir une indemnisation qui est potentiellement sera moins bonne.
Mais par exemple, j'évoquais le cas d'une partie de toiture qui s'envole ou qui est très dégradée. Là, il va falloir faire bâcher.
Il va falloir faire appel à un artisan.
Oui, mais quand il y a des dégâts, on n'en trouve pas.
Voilà, c'est que quand il y a des événements climatiques majeurs qui vont se concentrer dans une zone, les artisans vont être débordés. Donc, effectivement, il faut faire avec les moyens du bord. En tout cas, il faut essayer de minimiser les dégâts. C'est très important.
Il faut montrer qu'on a fait des efforts.
Exactement.
Par exemple, l'envoi d'un mail à une entreprise, des choses comme ça.
Toutes les preuves, effectivement, pourront jouer en notre faveur.
Admettons, ma toiture s'envole. La maison est inhabitable. Qu'est-ce que je fais? Je peux prendre moi l'initiative d'aller à l'hôtel directement en espérant être remboursé, ou est-ce qu'il faut que j'ai un accord de l'assureur avant? Comment ça se passe?
Alors ça va dépendre du contrat d'assurance. Certains contrats prévoient des frais de relogement.
Quand la maison est complètement inondée, mais on peut pas vivre dedans.
Ça entre dans les clauses qu'il faut vérifier.
Ça entre exactement dans les clauses qu'il faut vérifier. Les services, les frais de relogement, des frais de gardiennage, si on doit quitter son logement, sont des choses qui peuvent être proposées par les assurances. Il faut vérifier effectivement ces contrats, c'est très important.
Donc il faut souscrire à ces options, parce que souvent c'est des options en amont, c'est ça, hein?
Alors, ce sont des options. On parlait notamment des petites lignes. Dans le cadre d'une tempête, il faut rappeler qu'il peut y avoir des exclusions. Typiquement, ça va être tout ce qui concerne le jardin, les plantations, les clôtures, les abris qui sont de construction légère ne font pas automatiquement partie des choses qui sont couvertes. Ce sont des options qui vont forcément peser sur le prix du contrat.
Alors, je vais être un petit peu... J'aime peut-être gratter là où ça fait mal, mais vous êtes un comparateur d'assurance. Vous allez nous indiquer nous proposer tel type d'assurance, mais au bon vieux temps, moi j'ai connu ça, il y en a encore qui le connaissent, il y a des courtiers, il y a un rapport humain, est-ce que ça on le perd pas avec un système comme le vôtre?
Alors, au contraire, dans notre société moderne, on a besoin d'avoir une information qui est rapide, qui est claire, qui est efficace. Nous, ce qu'on propose, c'est gratuit, ça dure 2 minutes, on remplit un formulaire, que ce soit auto, santé, habitation, etc. Et on vous restitue les offres des grands assureurs avec le prix qu'ils vous proposent, le niveau de garantie qu'ils vous proposent. On peut comparer très simplement.
Y compris les petites lignes.
Vous pouvez recevoir un devis, ça dure quelques secondes, et vous pouvez comparer très facilement. Et il n'y a aucune obligation d'engagement. L'internaute choisit s'il souhaite souscrire directement auprès de l'assureur ou pas. C'est
parce
gratuit.
Que comparer une assurance, enfin les
c'est
assurances,
pas toujours simple,
c'est
hein.
pas toujours très simple.
C'est complexe.
Alors on se résume, donc faire en sorte que les dégâts ne s'aggravent pas, peut-être stocker aussi, parce que tous les objets qui ont pu être abîmés, les matériels électroportatifs, les matériels de gros électroménagers, etc., qu'est-ce qu'on fait? On les met aussi de côté dans, au sec,
à la
sous
poubelle.
Une bâche, on les... Mais si on les met à la poubelle, qu'est-ce qui va se passer? On va, vous pourrez pas, enfin l'assurance ne pourra pas indemniser.
Alors, pour répondre à votre question, effectivement, tout ce qui concerne le matériel, il faut essayer de pouvoir le mettre à l'abri. Et ce qui est très important à rappeler, c'est de conserver les factures, les contrats, les documents qui vont prouver qu'on avait ces objets.
C'est facile à dire, ça, mais moins facile à faire. C'est-à-dire que vous avez, vous, votre facture, François, de téléviseur?
Oui, dans un tiroir, quelque part, au fond, ouais.
Oui, je vois pas que le tiroir, il est...
Non, mais voilà, mais c'est vrai que, par exemple, on stocke tous ces documents, je sais pas, moi, dans le garage. Si le garage a été inondé, qu'est-ce qui se passe? Ben non, mais c'est vrai, c'est un
qu'est-ce
problème.
Qu'est-ce qui se passe? On photographie l'appareil et puis l'assurance évalue en gros sa valeur?
Alors, une photographie, effectivement, ça peut être très utile. Ce qu'il faut rappeler, c'est que quand même, il faut effectivement essayer de conserver tous ces documents à l'abri.
Peut-être scanner ces documents aussi, peut-être avant, non?
Les scanner, aujourd'hui...
Dans l'ordinateur qui, à ce moment-là, est mouillé.
Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le smartphone, c'est très simple de prendre des photos, des documents. On achète un bien qui a une valeur. L'idée, c'est de prendre tout de suite en photo la facture, vous la stockez, comme ça c'est fait.
Exactement, il y a même des enseignes aujourd'hui qui envoient par email les factures. Donc
oui.
Ça permet de les conserver.
Voilà, dans le cloud, enfin elles sont.
Exactement.
On peut parler des notions de vétusté, parce que ça c'est encore. Des fois on considère que c'est des clauses d'arnaque, excusez-moi, mais la vétusté c'est quoi? Parce qu'on vous dit, ah oui, je vais vous payer ça, mais je vais vous rembourser, mais avec la vétusté.
C'est un peu le contraire de vous, parce que finalement, plus vous vieillissez, plus vous prenez de la valeur.
Mais absolument.
Alors qu'une télé, c'est l'inverse.
Voilà, surtout une maison, quoi, aussi. Donc c'est quoi?
La vétusté, ça va être un calcul qui va être réalisé par l'expert pour déterminer combien votre bien vaut aujourd'hui sur le marché. Donc il va tenir compte de son ancienneté, de son utilité, de l'usage que vous en avez fait.
Attendez, la vétusté, en général, c'est pour vous dire qu'on va vous rembourser moins. La valeur d'une maison, elle a pu augmenter. Est-ce que ça va jouer, sa valeur vénale, je veux dire?
Alors, effectivement, quand on souscrit son contrat d'assurance, on va devoir faire attention à si on souhaite être indemnisé sur la valeur à neuf, notamment.
Oui.
Ça, c'est très important. La valeur à neuf, parfois, il y a des... on se trompe, on pense qu'on va être remboursé sur...
Au prix du matériel neuf d'aujourd'hui, c'est pas du tout ça.
Et c'est pas du tout le cas. On va être remboursé au prix d'un matériel équivalent aujourd'hui, donc qui va pas forcément tenir compte de l'évolution technologique, qui va être équivalent à ce que vous aviez.
En j'ai une télé qui a 15 ans, on va me la rembourser à valeur à neuf au prix qu'elle valait il y a 15 ans?
C'est à peu près ça, effectivement.
Ah oui.
On va vous la rembourser avec effectivement les qualités qu'elle avait il y a 15 ans, qui sont peut-être plus forcément celles d'aujourd'hui.
D'accord. Côté indemnisation, on est indemnisé dans quel délai? Et si on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, côté indemnisation, il y a plusieurs choses. La première, c'est on va être indemnisé. Alors, quand il y a l'état de catastrophe qui est promulgué, ça permet d'être indemnisé plus rapidement parce que les assureurs ont l'obligation de vous verser une première provision sous 2 mois. Typiquement, sinon ça peut prendre quelques mois, le temps que vous vous mettiez d'accord avec votre assureur sur le montant de l'indemnisation. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire venir à vos frais un contre-expert.
À vos frais.
Et là, il va s'engager une bataille d'expertise, de contre-expertise, qui peuvent aller jusqu'au tribunal. Avant d'aller là, on peut faire appel au médiateur de l'assurance.
Alors attendez, médiateur, parce qu'il y a deux médiateurs en réalité. Il y a votre médiateur, enfin votre médiateur,
le médiateur de l'assurance,
puisque vous n'êtes pas assureur directement, mais il y a aussi le médiateur des assurances. C'est ça, non?
Écoutez, il y a en tout cas le médiateur de l'assurance qui permet de régler les
déjà
litiges.
Déjà régler 90% des litiges.
Effectivement, c'est très important. Il faut se tourner vers le médiateur avant de se tourner vers les tribunaux. Dans tous les cas, c'est l'assuré qui est pénalisé parce qu'en attendant, lui, il attend son indemnisation, il attend de pouvoir enclencher des travaux. Donc, c'est toujours très long.
Et s'il n'y a pas d'accord, donc on ira au tribunal évidemment. Mais en cas de litige grave, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un drame pour les gens. Vous me dites plusieurs mois, mais vous faites aussi, il y a aussi les assurances font des avances sans être en catastrophe naturelle. Ça existe?
Oui, certains assureurs, évidemment, se montrent très conciliants, peuvent proposer des avances. Oui, il faut être en discussion avec son assureur, c'est très important.
Et si les assureurs ne veulent plus vous assurer parce que vous avez eu 3 dégâts tempête de suite, parce que ça arrive aussi, il y a un organisme, comment ça s'appelle ?
Tout à fait, il y a un organisme qui permet de vous trouver un assureur si vous n'arrivez pas par vous-même à trouver un assureur parce que vous êtes victime de sinistres trop répétitifs. C'est le Bureau central de tarification. Il faut se tourner vers eux pour qu'ils puissent vous attribuer un assureur.
Alors, on le trouve facilement sur Internet.
Oui, mais à quel prix ? C'est ça le problème.
Alors,
c'est qu'on va se trouver avec un assureur.
On peut pas savoir.
Qui va coûter sans doute plus cher, qui va peut-être.
Le coût moyen, justement, d'une assurance multirisque, c'est quoi ? Costaud, on va dire.
Alors, une assurance habitation, on estime qu'en moyenne, pour un appartement, on va être autour de 250 €. Pour une maison de 350 €, ce prix, il peut évidemment varier en fonction de la surface de votre bien assuré et de la région dans laquelle vous habitez.
Oui, parce qu'il y a des régions qui sont peut-être plus à risque pour les cambriolages, des choses comme ça, et ça fait augmenter le prix de la prime.
Très bien, merci beaucoup. Stéphanie Durafour, vous êtes porte-parole d'Assurland.com, c'est ça ?
Exactement.
Merci.
Il est 7h43, Christian, on va revenir dans un instant, on va retrouver vos questions au 32-16 et on va parler des punaises de lit. Tiens, oui. Et j'aimerais bien que ce matin, vous nous appeliez sur ce sujet. Est-ce que vous avez été victime d'invasion de punaises de lit ? Est-ce que vous en avez eu, Christian ?
Moi, j'ai eu à une époque des blattes.
Des blattes ?
Des cafards. Alors, c'est moins gênant parce que ça pique pas, mais ça prolifère à une vitesse. C'est très désagréable, une notion d'invasion.
Ah, bah oui, bien sûr. Surtout si ça rentre dans votre lit.
Ça peut y arriver un point, mais c'est.
J'ai l'impression que Stéphanie, notre invitée, va s'évanouir en évoquant les cafards.
On en parlera aussi. On se fera une émission cafards et punaises prochainement.
Donc, punaises de lit, on va en parler dans un instant puisque vous vouliez réagir sur cette bonne initiative du gouvernement pour combattre les punaises de lit. Mais donc, si vous voulez témoigner ce matin sur ce sujet, on va avoir quelques minutes. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On revient dans un instant, quasi 8h moins de quart. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, votre maison, François Sorel,
Christian Pessé.
Voilà, dans un instant, nous allons évoquer le plan de lutte du gouvernement contre les punaises de lit. Le gouvernement qui veut éradiquer ce fléau avec toute une batterie de services qui vont être mis en place. On va en parler dans un instant. Vous voulez réagir, poser vos questions sur ce sujet 32-16, l'appli RMC Direct Studio avec votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Mais auparavant, c'est Guillaume que nous accueillons.
Allô, oui, bonjour.
Oui, bonjour Guillaume.
Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et bienvenue Guillaume, on vous attend. Enfin, on vous attend, on vous écoute surtout.
Alors moi je vous appelle parce que on a acheté une maison qu'on a fait rénover et on a des problèmes d'humidité et de condensation.
Ah ben oui, vous aussi.
Voilà. Du coup, on m'a conseillé de faire des aérations sur les murs. Parce que on a rénové, on a changé les fenêtres qui étaient des fenêtres en bois pour mettre des
grand classique, grand classique.
Et on n'a pas d'aération sur les nouvelles fenêtres. Du coup, on m'a conseillé de faire des aérations au mur, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre.
Alors, c'est une vieille maison ?
C'est une maison des années 90.
Donc, ce n'est pas vraiment une très vieille maison. Et vous n'avez pas de VMC ?
Non, pas de VMC.
Donc, n'allez pas faire des trous dans les murs. Et même les ouïes dans les fenêtres, ça ne fonctionne que si vous avez, un courant d'air dans la maison. C'est-à-dire, si vous avez une maison qui est en dépression et qui fait que ça aspire l'air de l'intérieur et de l'extérieur à travers, effectivement, des ouïes, des perforations que vous décriviez. Mais pour que ça marche, principalement, il faut qu'il y ait... une source d'aspiration ou alors de suppression de la maison. Ça veut dire que soit il faut que vous mettiez une VMC si possible double flux, mais c'est pas facile parfois dans les maisons anciennes. Soit il faut que vous mettiez une ventilation. Alors on appelle ça des VMI, ventilation mécanique par insufflation, c'est-à-dire qu'on va puiser l'air à l'extérieur, on le pousse au lieu de l'aspirer avec les VMC. Mais vous pourrez faire tous les trous dans les murs que vous voulez si vous n'avez pas un système qui vous met soit en surpression, soit en dépression, eh bien, ça n'aboutira à rien. C'est la ventilation qu'il faut que vous créiez là. C'est pas seulement ce qu'on veut faire mettre, c'est des drains. Normalement, c'est aussi en terre cuite et ça peut assainir dans certains cas la maçonnerie. Mais là, votre cas, c'est un problème de condensation. Faut traiter l'air, faut renouveler l'air. Ça va être les grands enjeux dans les années qui vont venir. Je sais que des réglementations sont en train de se préparer. J'en parlais hier après-midi avec un spécialiste du sujet. La ventilation, le renouvellement de l'air dans les maisons va être le grand enjeu des futures années.
Faire appel à quel type de professionnel pour faire
C'est justement maintenant c'est des métiers un peu transversaux. Vous avez des électriciens qui font ça. Vous avez aussi des maçons et peut-être et dans certains cas des couvreurs. Voyez. Donc c'est un peu large, mais vous tapez ventilation mécanique contrôlée sur votre internet préféré et vous allez avoir des professions, des professionnels qui vont apparaître. Mais je sais, c'est pas très facile. C'est pour ça qu'il va y avoir cette profession va être prochainement réglementée.
Ok.
Voilà Guillaume.
Vous en prie. Au revoir. Bonne journée.
Voilà, et si tout comme Guillaume, vous voulez joindre Christian PC, ça se passe au 32-16, vous le savez. 32-16 ou bien l'appli RMC et Direct Studio. Allez, on enchaîne sur votre coup de cœur, Christian.
Oui, alors... Et
dans un instant, nous aurons Christine, justement, qui veut réagir sur les punaises de lit. On écoute d'abord votre coup de cœur et après on aura Christine.
Bon, alors c'est le plan anti-punaise, on va dire, qui est lancé par le gouvernement devant la prolifération inquiétude de cette petite saloperie d'insectes. J'avais annoncé ici même, le 19 janvier, j'ai recherché mes archives, 2013, j'avais annoncé que ça allait devenir une catastrophe. Bah, c'est devenu une catastrophe. On ne peut que se féliciter du plan qui est annoncé aujourd'hui devant ce qui prend le tour d'une cata nationale. Alors, la punaise, autrefois, elle était associée à des immeubles insalubres, essentiellement. Elle touche désormais à peu près tous les logements, y compris les hôtels de luxe de la capitale, car cette punaise est devenue une grande voyageuse. Elle transite tout simplement par avion, dans les bagages, même elle se loge des fois dans les semelles de chaussures, c'est vous dire, et dans les vêtements qu'on ramène des pays où il y a davantage encore de punaises. Et puis, autre facteur de prolifération, eh bien c'est la résistance accrue de la bestiole aux insecticides en vente libre. Et là, je reprends les propos de Patrick à chaque fois sur ce leitmotiv des produits insecticides de moins en moins efficaces. Donc, d'un côté, vous avez une bestiole qui devient de plus en plus résistante et d'un autre côté, vous avez des insecticides qui sont de moins en moins efficaces. La lutte la plus classique aujourd'hui, c'est la vapeur. On y reviendra, c'est-à-dire c'est le chaud qui finit par en venir à bout. On a recensé, tenez-vous bien, en 2018, 400 000 traitements de professionnels contre les punaises. 400 000 traitements.
400 000 traitements.
Et c'est une infime partie de l'ensemble de ceux qui sont touchés par le phénomène. Alors, pour venir en aide aux victimes de la suceuse de sang, le gouvernement a développé un site. Alors, ce site, c'est stop-punaise.gouv.fr et un numéro de téléphone 08 06 70 68 06. Je répète, 08 06 70 68 06. Je l'ai mis sur la page Facebook, donc vous pouvez facilement aller le voir. Et Christian Reca, qui est à ma gauche, me confirmera certainement que la punaise de lit n'est pas vectrice de maladie, mais elle peut provoquer des allergies et des démangeaisons assez graves.
C'est très terrible parce que c'est récurrent et on a du mal parfois à s'en séparer.
Christian, alors les deux Christian, la paire Christian, la paire on peut dire.
Oui, il n'y en a pas deux.
Les paires, l'idéal.
On a Christine au 32-16. Bonjour Christine.
Bonjour.
Bienvenue Christine sur RMC.
Merci.
Vous nous appelez de quel endroit ?
Montpellier.
Montpellier. Et alors, qu'est-ce qui se passe à Montpellier avec les punaises ?
Eh bien, moi, je me suis retrouvée un beau jour avec une chambre où je me suis aperçue que la vitrine en fait était envahie, mais en un temps, un an de record. Quoi,
parce record,
que Ah oui, vraiment temps record. Et en fait, je m'en suis aperçue parce que mon fils se levait et était couvert de
morsures. De rougeurs, oui.
Voilà, de plaques, de morsures. Donc, en fait, on a pris le problème à bras-le-corps parce que c'était l'été dernier, en fait. Hein, donc, on n'en parlait pas tant que ça. Donc, on a acheté des bombes, on a vidé la chambre. Laissé le mobilier, mais on a vidé la chambre des occupants. Et on avait la chance, a priori, d'avoir que cette chambre qui était infestée et quelques rares spécimens sur un canapé au salon. Donc après, on a traité avec des bombes plusieurs fois.
Oui, mais...
On a détruit le lit, le matelas, etc.
Ah, voilà,
on a
c'est changé ça, il faut des...
Bien sûr. C'est-à-dire que vous avez tout enlevé.
Au moins tout ce qui concernait le lit, ouais. Parce que même dans les tubulures du lit, ah il y en avait. Donc même, je me suis dit, même en faisant des bombes, ça va même pas arriver à pénétrer dedans. Donc ça, on a détruit, on a remis une literie neuve avec les pieds dans de la terre de diatomée, toutes les plantes traitées en terre de diatomée, etc. Et au jour d'aujourd'hui, dans cette chambre, il n'y en a plus jamais eu, touchant du bois. Et sur les rares que j'avais sur le canapé, je surveille tous les jours parce que ça devient une psychose. Hein, depuis
bien sûr. Alors vous savez, il y a une chambre syndicale là-dessus, c'est la CS3D. CS3D. Uh-huh. Et c'est là que vous aurez vraiment l'accès à des professionnels qui, eux, sont capables d'éradiquer les choses. Je ne veux pas être Cassandre, mais quand on le fait soi-même, très souvent, ça revient au bout de quelques années, au bout de quelques mois. Mmh. C'est une galère.
Comment fait-on le diagnostic de cela, quand on n'a jamais vu de punaise de sa vie, c'est quoi le
truc? Quand on est couvert de
il y a des petites
de
morsures, c'est ça?
Ça commence par les murcières.
Christine peut nous expliquer d'ailleurs comment votre fils avait quoi, des petits boutons?
C'était des boutons en ligne.
Ah oui,
des
d'accord.
Des boutons en ligne. Et puis après, quand on a épluché le truc, on a vu les bestioles.
Donc,
on a des chats, que c'était des tiques. Mais en fait, pas du tout.
La seule chose, c'est que ça n'est pas vecteur de maladie. C'est vecteur d'allergie, mais pas vecteur de maladie, a priori.
Christian n'est pas d'accord, forcément.
Je dirais qu'il n'y a pas de littérature scientifique rigoureuse sur le sujet. Dès lors qu'il y a excoriation, parce qu'il y a démangeaison, forcément, on risque d'avoir une pathologie dermatologique majeure, mais on peut avoir la pénétration de bactéries. Mais je pense que ces punaises transportent quand même des choses qu'on n'a encore pas identifiées. Ouais. On en reparlera dans une grande émission.
On fera une émission là-dessus avec le
docteur. Mais par contre, une question, c'est qu'au bout de combien de temps où on n'en retrouve plus, on peut considérer que l'invasion initiale est terminée? Combien de temps ça peut éventuellement rester?
Alors,
c'est ma question, parce que moi je surveille tous les jours.
C'est une maison individuelle?
Oui.
Bon, donc vous avez une chance. Si vous avez pu éradiquer véritablement les choses, normalement, c'est quelques mois que ça réapparaît. Si ça ne réapparaît pas dans les quelques mois, on peut peut-être être tranquille. Sauf que c'est surtout aussi ce qu'il faut traiter. Vous avez évoqué les plaintes, les rainures de parquet. Si vous avez des parquets avec des rainures un petit peu, vous savez, le joint entre les lames de parquet, tout ça se traite bien aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est arrêter les produits de traitement, c'est utiliser la vapeur. C'est-à-dire passer un nettoyeur vapeur régulièrement sur tous ces interstices. Et puis, effectivement, quand vous avez un canapé qui est infesté, la meilleure des choses, c'est encore la poubelle, hein, c'est encore la déchetterie, parce qu'il y a toutes les chances que ça puisse rester et réapparaître dans les mois qui viennent.
Christine, merci beaucoup pour ce témoignage. Et alors, autant vous dire que sur Dira Studio, on en a eu plusieurs comme ceci. C'est pour ça que ça nous inspire peut-être. Il faudrait peut-être faire une émission sur ce sujet.
Mais on va faire une émission
Entre-temps,
il va bosser, il va aller chercher s'il y a de la littérature.
Voilà, très bien. Christian Pesson, on se retrouve la semaine prochaine,
bien sûr.
Évidemment, pour notre rendez-vous maison. Et Monsieur Rekia sera à mes côtés pendant notre rendez-vous.
Et oui, nous venons d'avoir la perle idéale de notre émission.
Alors, on va parler des centenaires. Vous allez nous donner la recette miracle pour qu'on vive jusqu'à plus de 100 ans, hein,
d'ailleurs,
Christian.
L'émission est faite pour ça.
Voilà, vous vous engagez.
Depuis que vous vous êtes engagé sur l'émission, François.
Oui.
Eh bien, c'est grâce à vous, nous faisons une émission que pour devenir centenaire dans d'excellentes conditions.
Et puis, on parlera de la viande. La viande est bonne pour la santé. Il faut en manger raisonnablement, comme toujours.
Avec des légumes, raisonnablement, mais il faut de la bonne qualité de viande. Et là, nous aurons un grand témoin.
Voilà, un grand éleveur qui élève lui-même ses bœufs. Charolais et même du Wagyu.
Trois quarts d'heure avec lui, c'était merveilleux. Il est vétérinaire, vous verrez, c'est un homme passionné.
La météo, les infos, on est de retour sur RMC, à tout de suite.